Et en fait, et je vais reprendre un peu ce que Colin a introduit tout à l'heure, l'enjeu, c'est vraiment, Colin nous a dit, qui je suis et qui est Dieu. Pour bien comprendre Dieu, il faut bien comprendre ce que Dieu fait, parce qu'on le voit, mais comprendre qui Dieu est, c'est plus difficile parfois. Et on va essayer aujourd'hui de voir un petit peu qui est Dieu, quelle est l'importance de notre vie, et quel est l'enjeu finalement de ces deux mots, hein, faire et être pour Dieu. On va prier parce que vraiment j'ai besoin de la grâce de Dieu pour m'aider dans ce sujet. Notre Dieu, merci encore pour ce chant, pour l'inspiration que tu as donnée à son auteur. Aide-nous à tourner les regards vers toi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta majesté et ta gloire. Aide-nous à comprendre ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs, nos oreilles. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse vraiment agir en nous. Et donne-moi la sagesse, Seigneur, de parler de ta part. Amen. J'ai bien aimé Gilbert tout à l'heure qui a dit « Tu es le Dieu de toute éternité ». Voilà, donc Gilbert, il avait regardé, il a porté un regard différent. Dieu a agi dans sa vie, il a agi dans la vie de son épouse. Mais Dieu est vraiment le Dieu de toute éternité dans son essence. Et c'est cette essence qu'il est important de comprendre. C'est un petit peu quand on parle de louange et d'adoration, c'est un peu ça. Quand on loue Dieu pour ce qu'il fait, bah c'est la louange. Et on le fait couramment. On le fait dans notre vie quotidienne, j'espère. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu en tant qu'être dans son essence, on est plus dans le domaine de l'adoration. On est dans le domaine de l'essence de Dieu. Et finalement, c'est pas si facile d'adorer Dieu. Hein, parce que c'est facile de dire, on va adorer Dieu maintenant. Ok, une fois qu'on l'a dit, on fait quoi? Et vous savez que Jésus a parlé à une femme, dans Jean 4, il a parlé à la femme samaritaine, il lui a dit, parce que la femme samaritaine a dit, vous adorez à Jérusalem, et nous on adore ici. Alors où est-ce qu'il faut adorer? Voilà. Bon. Et Jésus dit, non, c'est pas du tout ça. Les véritables adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Et une fois que c'est dit, je fais quoi pratiquement? Qu'est-ce que ça change dans votre vie d'entendre ça? On va essayer de creuser un petit peu tout ça. J'aimerais vous poser une question en introduction. Est-ce que vous savez quelle sera notre activité principale, pour ceux qui appartiennent à Jésus, bien sûr, quelle sera notre activité principale quand on sera au ciel? On n'y sera pas 24 heures, ni 48 heures, ni 2 semaines, ni 1 an, ni 10 ans. On va y être pour l'éternité. Quelle est l'activité principale? Ce sera l'adoration. Donc on a un peu intérêt à s'entraîner dès maintenant. Parce que si on arrive au ciel et que le Seigneur lui demande, écoute, il faut adorer. Ah mais c'est quoi adorer? Parce que moi j'ai rien compris sur Jean 4. Donc on va essayer de voir un peu ce que dit la parole. On va essayer de donner quelques pistes pour comprendre qu'est-ce que c'est que adorer en esprit en vérité. Pourquoi Dieu est merveilleux dans ce qu'il est aussi. Non pas seulement ce qu'il fait, mais ce qu'il est. Et pour nous va se poser la question finalement, c'est être ou faire? Être ou faire? Comment adorer Dieu en esprit et adorer en vérité? Et la notion de être ou de faire. On est souvent, nous, dans le faire. Et comme on est créé à l'image de Dieu, et que Dieu est esprit, et que Dieu, il est merveilleux dans ce qu'il fait et ce qu'il est, nous aussi, on est créé à l'image de Dieu, et on est créé pour faire et pour être. Alors, quand est-ce qu'il faut être dans le faire, et quand est-ce qu'il faut être dans l'être? C'est pas facile. Alors, pour ceux qui mémorisent la Bible, qu'est-ce que nous dit 2 Corinthiens 5, 17? Qui veut se lancer? Qui connaît 2 Corinthiens 5, 17? Heureusement que je l'ai écrit, donc je vais vous le dire. Si quelqu'un est en Christ, pas fait en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà. Être en Christ, ça c'est vraiment l'enjeu, être en Christ. Alors, comme je vous l'ai dit, faire, c'est très facile. Alors, on aime bien faire, on aime bien accomplir. On aime bien, par exemple, gagner son salut. Vous savez que la tendance de tout le monde, c'est d'essayer de gagner son salut. La doctrine au cours des 20 siècles d'Église a été de passer de la nouvelle naissance à gagner son salut par les œuvres, par en faisant des choses, en faisant des chemins de croix, etc. Enfin, voilà, gagner son salut, prouver qu'on est capable d'accomplir. Parce que c'est difficile d'être et de recevoir gratuitement le salut. Regardez, par exemple, on va prendre nos Bibles, on va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 20. Matthieu chapitre 1, verset 16. Alors, je ne vous afficherai pas de verset aujourd'hui. Je vais vous faire bosser un peu. Je vais vous faire ouvrir votre Bible. Je pense que c'est un bon réflexe. Je vous expliquerai un jour pourquoi. Matthieu 20, 16. Matthieu 20, 16. Attendez, j'ai fait une erreur sur la référence. C'est pas Matthieu 20, 16. C'est le jeune homme riche. Alors, le jeune homme riche, il est plus loin. Oui, voilà, il est Matthieu 19, 16. Excusez-moi. Voilà, Matthieu 19, 16. Alors, Matthieu 19, 16, il y a un jeune homme qui s'approche de Jésus qui lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon ?» Tiens, faire de bon pour avoir la vie éternelle. Jésus lui répond, « Pourquoi m'interroges-tu ce qui est bon ? Un seul est bon, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Donc là, on retrouve un peu ce que tout à l'heure on a vu dans le psaume, « L'éternel est bon. » Et Jésus confirme que Dieu est le seul qui soit bon. Donc le jeune homme riche, il était bien sous toute couture, mais il voulait faire. Alors Jésus le prend au mot, « Tu veux faire, accomplis toute la loi. » Et comme on sait, la Bible nous enseigne qu'on ne peut pas obéir à tous les commandements sans tomber, eh bien, il est coincé. Et c'est ce qui se passe, il avait un problème dans sa vie, c'était l'argent, et il repart tout triste. Donc il veut faire, et c'est l'échec. On pourrait regarder en Luc 10, 25, parabole bien connue, c'est ce qu'on appelle la parabole du bon samaritain. Mais qu'est-ce qui déclenche la parabole du bon samaritain? C'est une question encore d'un docteur de la loi. Luc 10, 25. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire, encore une fois, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus, il va le prendre au mot, il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Il donne les deux plus grands commandements. Donc vous voyez que le faire, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent chez nous. On est dans le faire. On pourrait citer aussi un peu plus loin, Marthe et Marie. Hein. Jésus vient voir Marthe et Marie. Et donc Marthe le reçut, elle avait une sœur, verset 39, chapitre 10, appelée Marie, qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait la parole. Ah, elle est un peu plus dans l'être. Marie était absorbée par les nombreux soucis du service. Donc Marie était dans le faire encore. Vous voyez, Marthe était dans le faire, pardon, merci. Il y en a qui suivent quand même. Parce que l'être est plus difficile. Être avec Jésus, être avec Dieu dans sa présence, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Ça ne flatte pas notre orgueil. On n'a pas l'impression de faire quelque chose quand on est. Et vous savez qu'il y a un auteur anglais bien connu qui a dit « être ou ne pas être », finalement. Hein ? Et puis vous savez, les Britanniques, ils ont toujours le sens de l'humour. Donc il y en a d'autres aussi qui se sont posés la même question, savoir si qu'est-ce qu'il fallait faire ou qu'est-ce qu'il fallait, comment il fallait être ou pas dans l'Europe. Je ferme la parenthèse. Donc comment faire pour être finalement et ne pas tomber dans l'activisme du faire qui peut nous éloigner de Dieu, parce qu'on a vu qu'on est créé à l'image de Dieu. Donc si Dieu il fait et s'il est, si nous on n'arrête pas de faire et si on ne prend pas du temps pour être, eh bien on ne va pas trouver l'équilibre qu'il nous faut. Et là, il y a une question importante que Jésus, un jour, a posée, qu'on va lire dans Matthieu 16, verset 16. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles, en Matthieu 16, 16. C'est un texte bien connu, mais c'est bien de le relire. Donc, Jésus est sur le territoire de Césarée de Philippe, et il demande à ses disciples, « Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent. Alors oui, il y a plusieurs réponses ici. Il y en a qui disent Élie, d'autres Jean-Baptiste, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Aujourd'hui, si on pose la question à nos contemporains, on vous dira Jésus, c'est un grand homme, c'est un moraliste, c'est un fondateur de religion, c'est un guérisseur, c'est un faiseur de miracles. Et c'est pas mal en soi. Mais nous, qu'est-ce qu'on va répondre par rapport à ça? Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet de la réponse à cette question? Qui dites-vous que je suis? C'est l'enjeu aussi de ce que nous a dit Colin. Qui est-ce que je suis et qui est Dieu? Et comment je fais le lien entre les deux? Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que pour être en Christ, pour répondre à 2 Corinthiens 5, 17, il faut comprendre qui est Jésus. C'est-à-dire avoir une juste image de lui. Parce que c'est ça qui va nous permettre, comme Jésus est Dieu, de le louer et de l'adorer, en esprit et en vérité, selon sa juste valeur. Ça, c'est le premier postulat. Pour être en Christ, il faut vraiment comprendre qui est Jésus. Pourquoi cette question est importante? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour nous d'avoir une juste image de Jésus, de comprendre qui il est et de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité? Eh bien là, pour essayer de répondre à cette question, qui est pertinente, il faut aller dans le livre de la Genèse. Et on va aller dans la Genèse. Et dans le livre de la Genèse, on apprend que lors de la chute, il s'est produit beaucoup de choses. Vous savez que la création a été bouleversée, le péché est entré dans le monde. Mais lors de la chute, il s'est produit un événement important. Je vais lire donc Genèse chapitre 2, le dernier verset du chapitre 2, juste avant la chute. Pardon, le dernier verset. Genèse chapitre 2, verset 25, juste avant la chute, il nous est dit que l'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. C'est-à-dire qu'ils étaient en présence de Dieu, dans le jardin, dans une relation parfaite. Ils étaient dans l'être, ils faisaient, parce que Adam et Ève gardaient le jardin, et ils étaient dans une relation intime. Il n'y avait pas ce problème de s'approcher de Dieu, d'être en communion avec lui, de comprendre qui il était. Chacun était à sa place. C'était un petit peu cet état éternel dans lequel nous serons lorsque toutes les choses seront accomplies. Mais, voilà, est arrivée la chute, et lors de la chute, depuis le péché, l'homme a perdu la véritable image de Dieu. Pour s'en prouver, il suffit de lire les récits mythologiques, pour ceux qui connaissent la mythologie, parce qu'il y a des historiens, vous vous intéressez à la mythologie grecque, il y a des tas de dieux, d'abord il n'y a pas un seul dieu, il y a plusieurs dieux, c'est l'interprétation, mais peut-être que comme Dieu est pluriel dans la Genèse, les gens, la transmission orale a fait que les gens ont pensé qu'il y avait plusieurs dieux, donc on s'est créé plusieurs dieux, Zeus, Apollon, Vénus, tout ce que vous voulez. Et puis il y a toujours cette image d'un dieu en colère qu'il faut apaiser, avec des dieux qui se battent, qui se déchirent. Donc qu'est-ce qu'a fait l'homme? L'homme a transposé son propre état de pécheur sur Dieu. C'est-à-dire que comme l'homme est pécheur et que probablement dans la famille d'Adam il y avait des conflits, etc., ben Dieu, l'homme s'est dit, je vais transposer mon image, et sûrement chez les dieux il doit y avoir des batailles, des combats, c'est ce qu'on lit dans les mythologies. Et donc on a une fausse image de Dieu, on pense que Dieu est un Dieu vengeur, un Dieu punisseur, etc. Voilà. Parce que l'image a été déformée, le péché a déformé l'image que les hommes ont de Dieu. Voilà, et on peut aller dans toutes les cultures précolombiennes, on retrouve à peu près toujours le même schéma. Donc je n'insiste pas là-dessus parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais, et donc, pour combler cela, parce que Dieu est un Dieu d'amour qui veut être en relation avec sa créature, eh bien Dieu non seulement a pourvu aux conséquences du péché, on l'a dit tout à l'heure, il a envoyé Jésus-Christ, hein, pour tous ceux, hein, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc Dieu a pourvu, mais Dieu n'a eu de cesse de se révéler. Dieu s'est révélé en permanence aux hommes. Il s'est révélé à différents aspects. Par exemple, lorsque Adam, pour couvrir son péché, est allé se cacher dans un buisson, Dieu a appelé Adam en lui disant « Où es-tu, Adam ?» Dieu a voulu se révéler. Il voulait que Adam revienne vers lui pour que Adam comprenne que Dieu était un Dieu d'amour. C'était le Yahvé sauveur. Il y avait certes une faute, mais si Adam se repentait, il avait la repentance, il avait le pardon des péchés. Et puis Dieu s'est révélé après à Moïse. Et on va aller voir comment Dieu se révèle à Moïse. Exode chapitre 3. Je vous ai dit qu'on ferait un peu de parcours biblique. Exode chapitre 3. Moïse, depuis 40 ans, est dans le désert. Il pense que sa vie est terminée, il a 80 ans. Moïse est en crise identitaire, il ne sait pas si c'est un Égyptien, il se regarde, il est circoncis, il se dit « je suis hébreu, je suis quoi ?» Il passe 40 ans dans le désert, et là Dieu vient vers lui, il se révèle, Exode 3, 14, « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. » D'accord ? Et ce mot hébreu, « je suis celui qui suis », c'est l'équivalent de « je suis » dans le grec. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir un certain nombre de « je suis » et les conséquences. Et face à ça, eh bien, Moïse est complètement perdu. Pourquoi ? Parce que juste avant, verset 11, Moïse dit à Dieu, « Mais moi, qui suis-je pour aller vers le Pharaon ?» Donc Dieu se révèle en lui disant « Je suis » parce que Moïse ne sait pas qui il est. Qui suis-je, moi, pour aller vers le Pharaon ? J'ai 80 ans, je suis un vieillard, j'ai tué un Égyptien il y a 40 ans, ça m'a porté préjudice, je ne sais pas si je suis hébreu, je ne sais pas si je suis juif, etc. Voilà. Et ensuite, au verset 16, Dieu continue à se révéler et il dit à Moïse, Exode 3, 16, « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, on l'a dit tout à l'heure dans une prière. Il a dit, je vous ai vraiment visité. » Et il se révèle comme l'Éternel, c'est le Yahvé, le tétragramme. Donc Dieu se révèle par le « Je suis », l'Éternel. Le « Je suis », c'est l'état éternel. C'est ni le passé, ni le présent, ni le futur, c'est l'état éternel. Dieu se révèle comme le « Je suis » et il se révèle comme Yahvé, le Sauveur. Et il dit à Moïse, tu diras au peuple, et donc là Dieu se révèle au peuple, et il dit à Moïse, tu diras à mon peuple, « Je suis » m'a envoyé vers vous. Donc Dieu s'appelle « Je suis ». Et on passe vite, hein, parce qu'il s'est révélé à plein de gens. Il s'est révélé à Manoah, le père de Samson. Il s'est révélé à Gédéon. Il s'est révélé à Jérémie. À chaque fois, c'est le « Je suis » qui se révèle. Voilà, on passe vite. On arrive au Nouveau Testament, après avoir parlé autrefois à plusieurs reprises et de bien des manières par les prophètes. Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et Dieu se révèle en Jésus-Christ. Il se révèle en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je vous ai dit que Jésus-Christ, la comprendre qui est Jésus, nous aide à comprendre qui on est, et nous aide à comprendre vraiment ce que c'est qu'adorer en esprit, en vérité, et comprendre qui est Dieu dans son essence. Et Jésus va nous aider à mieux percevoir qui il est au-delà des apparences. Parce que Jésus va se révéler par ce qu'il est, et par ce qu'il fait. Alors ça tombe bien parce qu'on est dans une phase de transition. On a étudié cette année l'évangile de Jean. Et on a étudié les « je suis » de l'évangile de Jean. Il y en avait combien, vous vous en souvenez? Combien je suis? Il y en a sept. Hein, la perfection de Dieu, il y a sept « je suis ». Alors, je me permets de vous les rappeler. D'accord? Les « je suis » de Jésus dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui se révèle par ce qu'il fait. D'accord? Par ce qu'il fait. « Je suis le pain de vie, Dieu pourvoit nos besoins. » C'est ça le symbole. Ensuite, « Je suis la lumière, c'est Dieu qui éclaire, etc. » Vous avez ce petit schéma résumé avec les chapitres. Je ne reviens pas là-dessus, les messages sont enregistrés sur le site. Donc si vous voulez mieux connaître Jésus par ce qu'il fait, eh bien c'est les sept « Je suis » de Jésus. Mais avant de traiter les miracles de Jésus, il y a aussi dans l'évangile de Jean toute une partie de « Je suis » que je vais appeler peut-être le huitième « Je suis ». Le huitième « Je suis » de Jésus englobe la révélation de Jésus par ce qu'il est. Et comprendre ce qu'il fait, oui, mais ce qu'il est peut nous aider à avancer sur l'adoration du Père, du Fils et du Saint-Esprit en esprit et en vérité. Alors voyons voir un peu qu'est-ce que Jésus est dans l'évangile de Jean. Alors, on va aller au chapitre 6, déjà. Jean, chapitre 6, verset 27. Un des premiers points qui nous montre qui est Jésus dans l'évangile de Jean. Jean 6, 27. Je tourne avec vous. Jean 6, 27 nous dit « Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Donc Jésus, c'est d'abord le Fils de l'homme. Alors, on trouve cette expression dans l'évangile de Jean, elle intervient très souvent dans Luc. Luc, c'est vraiment l'évangéliste qui présente Jésus comme le Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme, ça nous montre l'humanité de Jésus. Ça nous aide à comprendre que Jésus est proche. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur miséricordieux qui ne puisse compatir à nos faiblesses, nous dit l'Épître aux Hébreux. C'est-à-dire que Jésus est devenu de la même nature que nous pour comprendre ce que vit un homme. Parce que c'est facile, je suis Dieu, je regarde la terre de très loin, il s'agite un peu là, les hommes. Vous voyez, si on reste très loin, on ne comprend pas. Si Jésus vient à notre portée, il est le Fils de l'homme. Donc Jésus est le Fils de l'homme, capable de compatir à nos faiblesses, capable de nous comprendre. Aucune tentation, nous dit 1 Corinthiens 10, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc Jésus a vécu toutes les tentations sexuelles pour les hommes, la faim, l'abandon, la tristesse, le doute, l'angoisse, toutes les tentations, toutes les épreuves que vous pouvez vivre, Jésus les a vécues. Il est le Fils de l'homme. Il n'est pas que Dieu éternel, bien sûr il est Dieu éternel, mais il est le Fils de l'homme. Voilà. Ensuite, Jésus, c'est aussi une autre facette qu'on va lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 24. Jean chapitre 8, verset 24. Une grande discussion, donc, suite à son affirmation sur la lumière du monde, l'épisode de la femme adultère. Jésus va dire aux pharisiens, qui viennent le titiller, qui viennent le provoquer, il va lui dire, verset 23, « Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pour ça que je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc Dieu, Jésus, est le Dieu éternel. C'est le Dieu éternel qui nous permet de ne pas mourir dans nos péchés. Si Dieu était non éternel, si la mission de Jésus avait été un échec, comme l'ont dit certains, eh bien Jésus étant mort, c'est fini. Donc je meurs dans mes péchés. Mais comme Jésus est éternel et qu'il est le premier né, le premier ressuscité, nous savons que nous suivrons dans la résurrection et que nous ne mourrons pas dans nos péchés. Nous serons ressuscités avec lui et assis dans les lieux célestes avec lui. Allons un peu plus loin au verset 58 du même chapitre. Jean chapitre 8, verset 58. Là encore, les Juifs continuent à le provoquer. Et Jésus va se révéler, il va continuer à se révéler aux Juifs qui ne vont rien comprendre. Mais n'oubliez pas que les disciples sont autour, écoutent, et ils absorbent. Et notamment Jean, qui va rédiger l'évangile, absorbe. Jésus leur dit, donc les Juifs lui disent, « Tu n'as pas encore 50 ans ? Et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » On retrouve le même mot par lequel Dieu se révèle à Moïse. Dieu est de toute éternité, c'est le « je suis », c'est l'éternel. C'est un indicatif présent en grec. C'est l'état actuel, mais l'état éternel. Et puis, un peu plus loin, tournons dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 10. La question de Philippe. Jésus leur dit, vous connaissez le Père, puisque vous me connaissez. Philippe ne comprend rien. Mais moi, si j'avais été à la place de Philippe, j'aurais rien compris non plus. Et Jésus lui dit, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Et qu'est-ce que répond Jésus ? Jésus, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Donc, la première chose, c'est que Jésus est éternel, il fait un tout avec le Père. Moi et le Père, nous sommes un. C'est pour ça qu'il commence à le lapider. Parce qu'il se fait l'égal de Dieu, ils ne comprennent rien. Ils voient Jésus comme un prophète. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont une image fauchée de Jésus. « Ah, Jésus, c'est un grand faiseur de miracles. » Il y a même un petit livre qui est sorti il y a quelque temps qui s'appelle « Les 100 hommes qui ont le plus marqué le monde ». Alors vous avez plein de gens, Bouddha, Mahomet, Alexandre le Grand, machin. Il y a Jésus au milieu. Voilà, il est classé comme ça, pêle-mêle, au milieu des 100. Ah non, ça c'est une erreur, excusez-moi. Il y a 99 hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité et qui sont morts. Il y a Jésus, c'est le seul, l'unique, celui qui est éternel, qui fait un tout avec le Père. Voilà. C'est important de comprendre que Jésus, ce n'est pas notre pote. Ce n'est pas le faiseur de miracles, ce n'est pas le guérisseur, le groom que je vais appeler quand j'ai des difficultés et que je vais laisser tomber après. Non, Dieu, c'est Jésus est le Dieu éternel, celui qui forme un tout avec le Père. La deuxième image de Jésus, eh bien, c'est une image bien connue, je vous ai cité le verset tout à l'heure, Jean 3, 16, vous pouvez me le citer. Exactement, Jésus, c'est le vrai sauveur. C'est le vrai sauveur. Et quelle est l'image qu'il prend dans l'évangile de Jean ? Il prend l'image du serpent d'airain, qui était un sauveur temporaire. Les Hébreux étaient mordus par les serpents brûlants. Ils commençaient à mourir. Et Dieu dit à Moïse, tu dresses un serpent. Et tous ceux qui regarderont le serpent, hein, ce n'est pas tout le monde, c'est juste ceux qui regarderont le serpent seront sauvés. Ça, c'était le précurseur du sauveur pour la maladie, pour la morsure du serpent. Jésus dit, le Fils de l'homme, moi, je serai élevé, afin que quiconque croit en moi ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Aujourd'hui, je ne sais pas qui ici a accepté le sauveur. En tout cas, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, eh bien, sachez que vous allez mourir dans vos péchés. C'est ce que nous dit la Bible. Ce n'est pas une menace, c'est que juste la Bible nous dit que vous allez mourir dans vos péchés. Donc aujourd'hui, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ peuvent faire ce pas. Pourquoi ? Parce que Jésus est le vrai sauveur. Il est le Dieu éternel, celui qui ressuscite, celui qui pardonne les péchés. Un autre « je suis » encore, qui traduit exactement qui est Jésus. Eh bien, on va aller dans Jean 13. Jean 13, c'est l'épisode du lavement des pieds, bien connu, donc c'est la page d'avant, pour ceux qui sont au chapitre 14. Jean 13, 13, après leur avoir lavé les pieds et repris ses vêtements, Jésus se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait. Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. » Jésus, il est le Maître et le Sauveur. Le Maître et le Seigneur, pardon. Et ça, c'est important parce que Jésus peut être votre sauveur. Vous pouvez avoir accepté Jésus et reçu le pardon de vos péchés. Mais s'il ne devient pas le Seigneur de vie, c'est-à-dire si je ne lui soumets pas toute ma vie, y compris les recoins cachés, et moi qui vous parle, j'ai beaucoup de mal dans ce domaine, parce que j'ai encore des domaines qui ne sont pas soumis à Jésus et contre lesquels je lutte. En tout cas, le Seigneur doit devenir le Seigneur de ma vie, le Maître de ma vie. Et il dit bien, vous m'appelez le Maître et le Seigneur. Ce n'est pas tout de dire qu'il est le Maître et le Seigneur. Mais il faut réellement comprendre, et vous le faites bien, car je suis le Maître et le Sauveur. C'est ce que dit Jésus. Je le suis. Donc Jésus est le Maître et le Sauveur. Et là, la question peut-être peut se poser à chacun, je vous l'ai dit tout à l'heure pour moi. Est-ce que Jésus est le Seigneur et le Maître de votre vie entière? En fait, il veut la vie entière. Ce n'est pas un maître dur, c'est un maître auquel on peut tout soumettre, y compris nos faiblesses. Tout à l'heure, on l'a dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à vos faiblesses. Donc si j'ai une faiblesse aujourd'hui, je peux lui soumettre ma faiblesse. En lui disant, Seigneur, je te remets ma faiblesse, je te remets ce péché, je te remets cette déviation, je te remets tout cela, qui est plus fort que moi, je n'arrive pas à m'en débarrasser, j'arrive pas à lutter, Seigneur, je te le remets, je voudrais que tu sois le maître de ma vie. C'est ça le « je suis », le maître et le Seigneur, et vous le faites bien, car je le suis, dit Jésus. Le maître et le Seigneur de ma vie. Et enfin, encore une fois, on a parfois une image limitée de Jésus, parce qu'on le voit agir comme un homme. Alors c'est bien parce qu'on a la proximité, mais l'image réelle de Jésus, elle est différente. Et je pense que c'est une image très forte qui résume tout. On va prendre deux versets. Un dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 27. Restez dans Jean parce qu'on reviendra à Jean tout à l'heure. Matthieu 14, 27. C'est l'épisode de Jésus bien connu qui marche sur les eaux. Et donc, à un moment donné, la barque était ballottée par les vagues. Et verset 25, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Encore une fois, une image déformée de Jésus. « C'est un fantôme !» C'est pas possible. Avec mon intelligence rationnelle, je me mets à la place du disciple, il est là, il voit Jésus marcher. Non, c'est un fantôme, c'est pas possible. Parce que personne ne marche sur les eaux. C'est un fantôme, image déformée. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Le c'est moi, c'est exactement le même mot grec que je suis dans l'évangile de Jean. C'est le même mot hébreu, aya, qui révèle Dieu à Moïse. voyez, on a une uniformité parfaite. C'est moi, n'ayez pas peur. Et puis, allons maintenant voir, toujours dans l'évangile de Jean, au verset 18. Donc là, verset 18, c'est l'arrestation de Jésus. C'est l'arrestation de Jésus, et au verset 18, il y a les pharisiens, toute la foule qui viennent pour arrêter Jésus. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, verset 4, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Il leur dit, « C'est moi. » Pareil, c'est le même mot, « Je suis. » Jésus leur répond, « Je suis. » Et regardez ce qui se passe. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Vous connaissez beaucoup de gens qui disent, « Je suis. » Et vous avez une foule de gens qui tombent par terre. Vous en connaissez beaucoup, moi j'en connais pas. Par contre, moi je connais dans la Bible des hommes et des femmes qui ont vu la révélation de Dieu et qui à un moment donné se sont aplatis, ils tombent sur leur face. Et là, on est vraiment dans le domaine du Jésus majestueux et puissant. Il n'est pas encore en gloire, mais quelque part, le « c'est moi », le « je suis de Jésus » va révéler la puissance de Jésus. Il fait tomber. Vous imaginez la foule, là, ils sont là avec des torches, et à un moment donné, Jésus leur dit, c'est moi. Si c'est moi qui disais ça, ils viendraient tout de suite m'arrêter. Mais Jésus leur dit, c'est moi, ils reculent tous par terre. C'est incroyable. Parce que Jésus est le Dieu de toute éternité. C'est le Dieu de gloire, en majesté. Il est tellement fort que tout le monde tombe à la renverse. C'est lui qui fait tomber également Ésaïe sur sa face. C'est lui qui fait tomber Ézéchiel. Etc., etc. Et enfin, allons voir dans l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, c'est la révélation de Jean. On a dit que Dieu se révélait depuis la Genèse jusqu'à la fin, et l'Apocalypse, c'est la révélation ultime de Jésus. Apocalypse, chapitre 1. Là, c'est donc l'apôtre Jean, le même qui a écrit l'Évangile, qui écrit le livre de l'Apocalypse, et il décrit son expérience. Apocalypse, chapitre 1, verset 17. Quand je le vis, donc Jésus, je tombai à ses pieds comme mort. C'est le même effet, pareil qu'Ésaïe, pareil que les soldats qui viennent arrêter. Il posa sa main droite en disant, « Sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. » Le premier et le dernier. C'est le commencement et la fin, la boucle est bouclée. Jésus est éternel, il est au début, il est à la fin, il est tout. Colossiens nous dit que Jésus est la plénitude de celui qui... c'est Éphésiens. La conclusion du majestueux premier chapitre d'Éphésiens nous dit au verset 23, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus est le premier et le dernier, et moi j'aime beaucoup aussi la description que donne Jean. Parce que c'est tellement glorieux, tellement majestueux, qu'il n'y a juste pas de mots pour le... Verset 12, Apocalypse, chapitre 1, verset 12, « Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'arrive pas à lire. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, chapitre 12 ? Merci. Voilà. Donc on a une image au travers de l'évangile de Jean, au travers de tous ces « je suis » qui marquent qui Jésus est. On a une image vraiment de la majesté de Dieu. C'est le Dieu qui nous a sauvés. C'est le Dieu qui nous conduit. Et ce qui est important, c'est que c'est le quatrième point que je voulais voir avec vous, c'est que quand on comprend qui est Jésus, ça nous aide à comprendre qui on est. Ça nous aide à comprendre notre place. Quelle est notre place d'adorateur? Quelle est notre place dans l'Église? Quelle est notre place dans le monde? Quelle est vraiment notre rôle. Et pouvoir affirmer comme Jésus, je suis. Et quand vous vous présentez à quelqu'un, peut-être vous dites, je suis Pierre, Paul, Jacques, je fais ci, je fais ça. Souvent, on dit, je suis et je fais. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Quand vous vous présentez, vous dites, je suis, je fais, etc. Mais on ne parle jamais de qui je suis en termes d'essence. Je pense que c'est important aussi de comprendre qui est Dieu dans son essence. Et répondre à cette fameuse question de Jésus, de dire, qui dites-vous que je suis ? Aujourd'hui, le monde va vous dire des tas de choses sur Jésus. Vous voyez, je pense à cette citation de C.S. Lewis. Vous connaissez C.S. Lewis, donc c'est un chrétien. C'est lui qui a écrit notamment Le Monde de Narnia. Un chrétien convaincu qui s'est converti à l'âge adulte. Et qui a écrit quelque chose de juste sur l'image que les gens ont de Jésus. Jésus, c'est soit un fou, soit c'est le Dieu éternel. Donc à la limite, Jésus est radical. C'est soit on tombe à ses pieds, on l'adore, soit on le traite de fou. Peu importe. De toute façon, ce n'est pas lui qui va changer, c'est nous qui devons changer. Et C.S. Lewis, ça résume un peu la pensée que je voulais vous donner ce matin. Et en conclusion, peut-être le point clé que je voulais vous transmettre, c'est ça. Relisez ces textes de l'évangile de Jean. Essayez de voir qui est Jésus. Essayez de vous faire une idée juste de ce que dit la Bible. Pas de ce que vous allez entendre des autres. Pas de l'impression générale que vous avez. Mais vraiment, qui il est et comment on le présente dans la Bible. Vous en serez richement bénis, comme j'ai été béni aussi. Merci.